balado-diffusion Regards différents et échanges conscients. Depuis déjà un moment, j'ai besoin de mouvement, de nouvelles perspectives face aux défis de la vie. Je crois même que le monde a besoin de sortir de la boîte dans laquelle nous sommes bien souvent, de voir les choses sous un autre angle. En tout cas, je ne sais pas si tout le monde en a besoin, mais moi j'en ai besoin, puis je t'invite à partager ce moment-là avec moi. Je t'offre de plonger au cœur d'un sujet, d'explorer la profondeur, de se permettre de voir les choses différemment. Ici, à l'émission Regards différents et échanges conscients, on fait l'effort de sortir des sentiers battus. Est-ce que tu as envie de venir faire cet effort avec moi? Je te présente des sujets, des personnes, des situations qui nous offrent cette différence. Bonne écoute et merci d'ouvrir ton esprit avec moi. Bonjour Jonas, bienvenue à Regards différents et échanges conscients. Aujourd'hui, j'avais envie de t'inviter pour présenter aux gens ton projet, le projet que tu as réalisé là, en lien avec ton voilier dernièrement. Donc, bienvenue.
Ben merci.
Parle-nous de toi un peu, d'où est-ce que tu viens, tes origines, peut-être un peu de tes intérêts, tes voyages.
Oui, bien sûr. Donc, je suis danois. Et c'est pour ça que j'ai un petit accent, peut-être. Et donc, je viens du Danemark. J'ai une mère danoise et un père anglais. Donc, j'ai toujours eu les influences anglaises dans ma vie. Et maintenant, je suis étudiant au Danemark aussi. Mais j'ai passé 6 mois en France. Je suis en train de devenir journaliste.
OK.
Oui. Quoi d'autre? De naviguer m'a toujours intéressé beaucoup, mais c'était il y a 2 ans que j'ai vraiment commencé parce que mon frère m'a demandé si je voulais acheter un bateau avec lui. Donc, okay. Oui.
C'est un bateau familial, c'est bien.
Oui.
Et dis-moi, tu dis que tu es en train de devenir journaliste. Présentement, tu étudies dans ce domaine-là également?
Oui.
OK. Puis, est-ce que ton intérêt pour les aventures et tout, tu vois un lien avec tes études ou ton intérêt pour le journalisme?
Oui, je pense que quasiment, il y a un lien entre les deux parce que le journalisme m'a intéressé beaucoup aussi parce que au moins on espère que chaque jour est différent. Bien sûr qu'on est toujours en train d'écrire quelque chose, d'enregistrer quelque chose ou de parler avec quelqu'un, mais chaque jour, enfin, j'espère que chaque jour va être différent que la chose avant. Oui. Donc, peut-être qu'il y a un lien là. Aussi parce que, comme ça, c'est possible de parler avec des gens intéressants et des gens avec de belles rêves et tout ça. Et des fois.
Oui, je comprends tout à fait ton intérêt envers le partage comme ça. C'est tellement vrai que c'est le fun d'échanger avec les gens, puis surtout par rapport à ce qui les passionne. Hein.
Et je pense aussi que pendant ma vie, bien que c'est toujours courte, mais pendant ma vie, j'ai toujours eu de différents intérêts, de différentes passions. Donc, je pense que c'est toujours intéressant de parler avec des gens qui ont des autres, qui ont des autres passions, des autres choses qui leur passionnent, parce que je pense que oui, c'est belle de pouvoir apprendre comme ça, je pense.
Oui, ben, je suis bien d'accord avec toi. Puis pour moi, la curiosité, ça, c'est directement relié avec l'aventure, je pense, ou la capacité là, de faire les choses différemment ou d'aller vers l'inconnu. Donc, c'est pourquoi je voulais entendre ton histoire et la partager à l'émission pour justement voir un peu c'est quoi qui t'a mené jusqu'à cette aventure-là. puis ben oui. Et pour commencer, j'aimerais te demander combien de jours es-tu parti au total en voilier?
Donc, ça fait environ 56. Oui, c'est ça.
Quand même. Puis la distance approximative, est-ce que tu la connais par cœur?
Ben, ça fait environ 400 milles nautiques.
C'est bien. Donc, oui, donc... tu es parti à quel moment faire cette aventure-là?
C'était début août.
OK, le début du mois d'août?
Oui, c'est ça, oui.
Et dis-moi, il faisait quelle température, par curiosité, au Danemark à ce moment-là?
Ben, en fait, il faisait très belle parce qu'on on avait complètement horrible. En fait, il y avait de la pluie chaque jour pour 2 mois jusqu'à... Depuis, je pense que c'était juin, ça pleuvait tout le temps et aussi pour les mois après ça. Donc
pendant ton voyage, il y a eu beaucoup de pluie?
Non, parce que c'était avant. Donc, j'ai eu beaucoup de chance parce que mois d'août, ça faisait très, 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 très belle. Donc, on avait beaucoup de chance comme ça, mais septembre, c'était un peu différent parce qu'il y avait quand même de la pluie et aussi beaucoup du vent. Donc, c'était un peu différent, mais ça a commencé vraiment belle avec beaucoup de soleil chaque jour. Et en fait, on s'est fait brûler beaucoup par le soleil. Donc, c'était un peu dur, en fait. Il y a oui. Il y avait des jours où on avait espéré qu'en fait c'était plutôt nuageux, mais c'était pas comme ça.
Non, mais j'imagine parce que il y a pas, c'est une pleine exposition, il y a pas d'arbres, il y a rien pour couvrir, donc c'est pas évident sûrement pour les coups de soleil là.
Non, en fait c'était un peu difficile comme ça, mais on avait des chapeaux et des ça s'appelle comment déjà, c'est
crème solaire,
oui, c'est ça. Donc, on avait beaucoup de ça et des chapeaux et des lunettes de soleil. Donc, ça s'est bien passé, mais il y a des fois qu'on espère pouvoir échapper un peu du soleil.
Ben oui, je comprends tout à fait. Puis, vous êtes partis deux, c'est ça?
Oui, pour la plupart de la voyage, j'avais ma copine aussi avec moi qui s'appelle Léa.
Okay.
Au début, j'avais imaginé que je voulais faire tout ça seul, en fait, parce que j'ai lu plein de livres sur le sujet. Et je pense que les livres les plus intéressants, ils sont toujours les livres de ce qu'on appelle de solo navigateur, ou ça s'appelle en anglais, c'est single hand. Et il y a un très connu solo navigateur qui s'appelle Bernard Moitissier. Qui venait de la France.
Bernard Moitissier?
Moitissier, oui. Je pense qu'il a fait la grande tour, donc il a circumnavigué la Terre, mais après, il décidait de faire un autre tour sans s'arrêter. Donc, je pense qu'il est l'un des hommes qui font une voyage sans s'arrêter, la plus longue. C'est pour oui. ça que son livre s'appelle La longue route, je pense.
OK. Puis, est-ce que dans son livre, il parle seulement de son voyage technique, de ce qu'il fait au quotidien, ou c'est également un récit où il parle du voyage qu'il fait à l'intérieur de lui, si on veut, ou c'est vraiment plus pratique ou technique?
Mais je pense que c'est intéressant parce que je trouve que les navigateurs anglais, ils sont plutôt techniques, ils sont plutôt pragmatiques aussi. Mais tous les navigateurs français que j'ai lus, ils sont tous aussi à moitié philosophes, je trouve. Donc, Bernard Moitissier, il est, dans ce cas, il est vraiment le pire de deux parce qu'il est, je dirais qu'il est plus philosophe qu'il est navigateur. Donc, la plupart du livre, c'est vraiment lui qui réfléchit sur, sur la vie et sur, sur la société moderne et tout ça. Donc, c'est intéressant aussi pour ça.
Moi aussi, ça me parle beaucoup, ce genre de récit-là. Vraiment. Oui, oui. Donc, tu, finalement, tu es partie avec ta copine, puis c'était, c'est quoi qui a fait, les, qui a été l'élément décisif là, pour lequel tu, tu as décidé de faire ce voyage-là à, avec quelqu'un d'autre plutôt que seul, finalement?
Oui, mais je pense que c'est quelque chose à faire avec la nature d'être en couple. Parce que je pense que c'est dur des fois de se pas voir pour longtemps. Mais je pense que c'était aussi parce qu'elle m'a vraiment aidé beaucoup pendant la période où j'ai rattrapé le bateau. Donc, je pense que c'était naturel parce qu'elle a vraiment, elle devenait vraiment une partie de l'histoire du bateau. Oui. Mais c'était, en fait, c'était au début, c'était parce que, c'est, comment dire ça, c'était moins sans risque ou peut-être moins avec risque de naviguer deux ensemble que seul.
Oui, ben c'est sûr que pour la sécurité, c'est mieux. Si t'arrive quelque chose et que tu es seul, c'est plus dur d'intervenir, hein?
Oui, mais donc après, c'était, en fait, c'était des idées qu'elle voulait m'accompagner pour 2 semaines, mais après 2 semaines, c'était, ça avait l'air bizarre de arrêter là, ou sans elle. Donc, on avait des idées ensemble qu'on voulait continuer ensemble.
OK. Puis, elle, est-ce qu'elle avait déjà fait des expériences en bateau comme ça? Puis toi aussi, d'ailleurs, est-ce que tu avais déjà fait ce genre d'expérience auparavant?
Elle, non. Moi, oui. Donc, je pense que elle a accompagné... je pense que la première fois qu'elle a navigué, c'était aussi avec moi, mais c'était quand on en a ramené le bateau de mon frère. Il y a un an, parce qu'il pouvait pas, c'était parce qu'il venait d'avoir un enfant, donc c'était un peu compliqué pour lui de ramener en bateau, donc on faisait ça pour lui. Et donc, je pense que c'était la première fois, en fait, qu'elle avait fait ça. Mais moi, comme on l'a acheté il y a 3 ans, mon frère et moi, on a navigué ensemble pas mal de fois, mais pas aussi long que comme avec cette aventure.
Mais oui, c'est quand même beaucoup de jours. et ça, ouais. ça doit demander quand même une certaine planification. D'ailleurs, avant de partir, il faut penser à tout, j'imagine.
Oui, mais en fait, comme on a fait une sorte de circumnavigation de Ceylan, qui est l'île la plus grande au Danemark, c'était pas vraiment super compliqué parce que c'était pas sans arrêt, c'était pas l'aventure de moitié ici. Donc, mais oui, je pense qu'il y a toujours une grande élément de planification parce que il faut être prêt pour que le temps se change et que peut-être que quelque chose se passe pas vraiment comme on avait espéré ou comme on avait imaginé. Donc, je pense que c'est vrai qu'on apprend très vite d'être prêt pour beaucoup de situations très différentes.
Oui, mais il faut de l'adaptation, ça, c'est certain. Oui. c'est sûr et certain. Puis, dis-moi, dans le fond, toi, est-ce que tu as eu à suivre une formation ou quelque chose pour utiliser un voilier ou bien tu as appris avec des gens que tu connais qui en font?
Oui, mon frère et moi, après ce qu'on avait décidé d'acheter en bateau et tout ça, on a pris, on prendrait un cours sur la navigation et tout ça. Et pendant, je pense que c'était un an, pendant en hiver et en été. mais c'était plutôt théorique parce qu'il y a beaucoup de règles qu'il faut connaître. Donc, et bien sûr, il y avait aussi la partie pratique, mais c'était pendant l'été. Donc, oui, mais il y avait des fois où je sentais que j'aimerais bien peut-être avoir connu quelqu'un qui avait navigué plus que moi et avec qui on pourrait apprendre plutôt, je sais pas comment on dit ça, inconsciemment. Parce qu'il y a beaucoup de petites choses beaucoup de erreurs qu'on ne voit pas après ce qu'on a fait, les erreurs, si ça fait sens.
Oui, je comprends. Quand on fait quelque chose de nouveau, il y a le côté théorique, oui, mais souvent les apprentissages les plus difficiles au niveau de l'adaptation, moi aussi, je trouve que c'est les petits détails que les gens ne nous expliquent pas. Souvent, c'est du essai et erreur. Donc, je comprends un peu qu'est-ce que tu veux dire.
Oui, oui, oui. C'est aussi c'est des choses qui je pense qu'on apprend pendant une vie. Et donc, j'aimerais bien avoir quelqu'un qui a déjà vécu. Je ne devrais pas, peut-être que je pourrais évader le même faute, les mêmes erreurs.
Ah, les éviter, oui, tout à fait.
Oui, les éviter, c'est ça. Ah, oui, et donc, mais c'est comme ça, je connais personne comme ça, donc il faut faire les erreurs moi-même.
Donc, c'est pas dans votre famille là, que c'est pas quelque chose que vous faites de génération en génération, là, faire du bateau.
Non, c'est vraiment vachement intéressant comme ça parce que pour je pense que pour toute ma vie, j'ai toujours été intéressé par des choses dont mes parents ne savaient rien en fait. C'est toujours été des choses comme des voiliers ou de faire des aventures ou d'apprendre comment faire du céramique ou comment travailler avec du bois. Donc, ça a toujours été ma problème comme ça parce qu'il y avait rien, il y avait personne près de moi qui pourrait m'enseigner. Mais avec l'internet, on a quand même beaucoup de sources et beaucoup de possibilités pour apprendre quand même. Donc
oui,
c'est pas pour me plaigner, mais c'est juste pour expliquer que ça a toujours été un peu comme ça pour moi.
Donc, tu es un peu un extraterrestre dans ta famille.
Je dirais peut-être, mais mon frère, il est lentement aussi. Mon frère, il est plus vieux que moi. Donc, il est lentement aussi devenu plus intéressé par des choses comme ça. Donc, maintenant, j'ai un ami avec qui je pourrais partager ces choses-là. Et en fait, aujourd'hui, il est en train de pêcher. Mais sous l'eau,
en plongée. Ben, dans le fond, il fait de la plongée.
Oui, je dirais que c'est ça, mais avec un harpon. Harpon, oui.
Donc, c'est des gros poissons. Devenu... Donc,
En fait, non, c'est plutôt un fer, je dirais. Il a un gros harpon et c'est des petits poissons. Mais comme ça, lui aussi, il est devenu,
aventurier?
Oui, aventurier, oui, c'est ça. Okay. Donc, c'est cool.
Ben oui. Donc, est-ce que tu prévois faire d'autres voyages du genre bientôt ou est-ce que tu prévois en faire des plus longs d'ailleurs? C'est plutôt ça ma question.
Ah oui. C'est marrant. Que tu me demandes ça parce que il y a deux jours ma copine m'a demandé si peut-être dans la future on pourrait faire un tour du monde et je pense que c'est plutôt marrant pour moi parce que je dirais que après notre aventure autour d'une petite île comme Ceylande, je suis devenu plutôt où j'ai plus respect pour la nature maintenant, j'ai plus respect pour l'océan et les forces qui sont dedans. Donc, et moi, je pense que j'ai fini l'aventure avec plus de je pense, peur qu'elle. Mais je pense que si que ça a quelque chose à faire avec le fait que c'est moi le capitaine, c'est, elle savait peut-être pas vraiment quand et comment on était dans la merde des fois. Et donc...
Non, mais c'est beaucoup de pression sur les épaules quand on est en charge, j'imagine. Je me mets à ta place, là, où ça doit pas être évident.
Oui, mais pour répondre à ta question, c'était... oui, j'imagine que, qu'on va faire ça, mais je pense qu'on va prendre ça lentement. Donc, la prochaine été, je pense qu'on va, on va essayer de naviguer à une petite île aussi qui s'appelle Bornholm. J'imagine que c'est difficile de prononcer pour une francophone, mais Bornholm, c'est environ 100 milles nautiques de l'est de Seeland, et c'est pas difficile, mais c'est différent parce que c'est en pleine mer, donc on peut pas juste appeler quelqu'un pour être ramené si on a des problèmes. C'est pas comme la côte, au 2 kilomètres de nous, c'est vraiment peut-être 50 kilomètres ou plus que ça quand on navigue à Bornholm. Donc, c'est plutôt en pleine mer et c'est différent et j'aimerais bien faire ça. Ça prend environ, peut-être si on a de la chance avec le vent et tout ça, et ça prend 4-5 jours en pleine mer. Donc, ça serait intéressant, mais aussi très différent comme ça.
Oui, mais j'aime bien ton approche. Je pense que ça démontre quand même une certaine maturité de dire je veux essayer des nouvelles choses et tout, mais je vais m'ajuster et y aller tranquillement, dans le fond, apprendre une étape à la fois. Mais tu y vas, tu veux poursuivre quand même s'il y a eu des situations plus épeurantes pour toi. D'ailleurs, tu m'as parlé brièvement d'une fameuse tempête. Est-ce que tu veux nous raconter ce moment-là que tu as vécu dans la tempête?
Oui, bien sûr, parce que ça, c'était à la fin. Je pense que c'était 2 jours avant qu'on a été revenu chez nous. Donc, on était peut-être un peu fatigué et le vent était très fort ces jours-là, mais j'avais vécu que des fois, nous avons une petite application qui dise comment va être le vent, comment va être le temps ces jours-là et des autres jours après. Et comme ça, j'avais vécu que souvent, l'application se trompe, en fait. Donc, l'application disait qu'on aurait de vent très fort, mais le jour, il y avait presque un vent du tout. Donc, pour ça, je suis devenu peut-être un peu surconfident. Je ne sais pas comment dire ça.
Oui, mais dans le fond, ça augmentait ta confiance ou c'est l'inverse?
Oui, peut-être parce que j'ai vu que peut-être il disait que le vent va être très fort, mais en fait, je croyais pas. Donc, je pense que ma confiance a été augmentée, peut-être comme ça. Donc,
ouais, je augmentée comme ça. Parce que ça se trompait souvent. Donc, toi, tu disais que ça va être encore une erreur.
Il faut peut-être expliquer que quand on navigue, le vent est mesuré en mètres par seconde. Donc, 6 mètres par seconde, c'est beau, c'est fantastique pour aller naviguer. Et l'application, il disait qu'il voulait faire environ 13 mètres par seconde. Et peut-être plus tard, environ 15 mètres par seconde. Mais comme j'ai déjà dit, moi, je ne croyais pas. Donc, on a décidé d'aller en tout cas. Et ça, c'était peut-être une faute, une erreur.
Ouais.
Parce qu'au début, ça s'est passé très bien. On peut faire que les voiles sont plus petites ou plus grandes. Et donc, on avait fait qu'ils sont peut-être, je sais pas, à moitié que leur taille normale. Et ça s'est passé très bien. On avait environ, je sais pas, 12 km de vitesse et on était heureux, mais environ, il y a une ville qui s'appelle Elsinger, et environ le moment où on était là, il y avait une grande tempête qui venait sans s'annoncer, sans dire. Et c'était vraiment effrayant, ça, pour moi, parce que j'ai vu dans les vidéos quand il y avait des solo-navigateurs qui faisaient des tours du monde. J'ai vu qu'il y avait, on appelle ça une tempête, mais on appelle ça en anglais, on appelle ça un squall. Et j'ai vu ça, mais j'ai jamais croyé que ça arrivait au Danemark, parce que c'était plutôt des choses de grand-mère. Donc, j'étais vraiment surpris quand j'ai vu cette grande rive tout à coup, donc avec vent qui était tout plus fort que je n'ai jamais senti dans ma vie, et beaucoup de la pluie. Et donc on a perdu notre visibilité, on pourrait rien voir tout à coup. On pourrait voir sa main. Oui, après ça, c'était complètement impossible. C'était un peu comme fog. Je sais pas comment on dit ça.
Ah oui, dans le fond, il y avait beaucoup de brume.
Oui, c'était un peu comme une brouillard ou quelque chose comme ça. Mais c'était de la pluie, mais ça avait l'air de la brume. Et comme ça, on pourrait rien voir. Il y avait du tonnerre et le vent était très fort, aussi fort qu'en fait le bateau a commencé à basculer de la côté inverse d'où le vent venait. Okay. Et en fait, c'était presque 80-85 degrés, donc c'était vraiment sur sa côté le bateau. Et il fallait aller dans l'œil du vent. Je ne sais pas si on pourrait dire ça en français, mais en plein milieu du vent pour qu'on pourrait changer de la taille des voiles. Et ça, c'était effrayant parce qu'en fait, je ne pouvais pas contrôler le bateau et il prendrait vraiment toutes mes forces pour aller là. Parce que, en fait, c'était de ma faute, parce que le voile, il était trop rond pour les conditions. Et comme j'ai déjà dit, c'était parce que je ne croyais pas dans l'application ou le météo, en fait, c'est le météo. Et ça, c'était effrayant. Et je pense que la chose qui était peut-être le pire pour moi, c'était que c'était pas pour 2 minutes, parce qu'on a essayé des choses comme ça avant, 2 minutes de vent très fort, de la pluie, tout ça, mais en fait, ça durait 4-5 heures. Et c'était vraiment dur, en fait. Je pense que maintenant, bien que c'était pas aussi dangereuse ou aussi difficile comme des situations des solo-navigateurs ont vécu. Je pense que maintenant, j'ai beaucoup plus de compréhension pour ceux qu'ils ont vécu des fois, quand ils disent qu'ils ont pris peut-être 24 heures sans dormir parce qu'il y avait une tempête. Maintenant, je comprends juste à quel point ils étaient fatigués, parce que c'est vraiment dur. Et je sais, peut-être qu'il y a des gens qui vont écouter ça et qui peut-être aussi naviguent Et peut-être qu'ils vont se demander, bah, peut-être que ce n'est pas aussi difficile comme ça. Mais je pense aussi que ça dépend de son niveau, de son niveau de savoir sur le sujet de navigation.
En tout cas, tu dois prendre conscience à quel point tu es minuscule, hein? dans oui, tout ça. Oui, c'est fou.
Et aussi, dans les eaux du Danemark, il y a vraiment beaucoup de grands bateaux. Je viens d'oublier le nom pour eux, mais des bateaux, des paquebots, c'est ça. Des grands bateaux, comme on ne pourrait pas le voir, c'était aussi stressant parce que... Si on ne peut pas le voir, ils ne vont pas nous voir non plus. Donc, pour ça, il fallait aller très, très près de la côte. Peut-être. Mm-hmm. Et ça, c'est aussi stressant parce qu'il n'y a pas beaucoup de profondeur d'eau là. Et donc, c'était dur parce que je venais d'apprendre que bien qu'on croit qu'on a contrôle de la situation, en fait, ça pourrait changer vite, très vite. Donc, j'étais un peu basculé aussi après ça. Et je pense que ma copine, elle savait aussi que c'était sérieux, mais je pense que comme je ne voulais pas dire quelque chose pour qu'elle commençait c'est stressé trop. Je gardais le fait que c'était les conditions les plus dures que j'avais vécues. Et j'ai essayé de tenir ma tête.
C'est pas évident parce que c'est comme tout repose un peu sur tes épaules, mais quelqu'un d'autre en plus. Tu sais, quand on parlait des navigateurs solo, ça doit quand même enlever cette pression-là de...
Oui, bien sûr, peut-être, bien sûr. Mais je ne sais pas vraiment comment j'aurais me débrouillé dans cette situation sans elle, parce que je pense qu'il y a... C'est aussi pour ça que j'ai décidé, j'aimerais bien naviguer au moins avec une autre personne, parce que je trouve toujours qu'on a besoin d'une troisième main. Si ça fait sens.
Certain. Vous bougez beaucoup dans un voilier, hein, pour justement ajuster les voiles et tout. J'imagine aussi que avoir une autre personne, ça doit contribuer beaucoup à aider à ce niveau-là aussi, là, parce que ça semble compliqué.
Oui, même s'ils ne savent pas naviguer du tout, c'est juste bon d'avoir quelqu'un qui pourrait prendre un peu. La contrôle des fois, ou peut-être donner quelque chose. C'est souvent, je pense qu'on se sent un peu attrapé parce qu'il faut faire beaucoup de choses en même temps et c'est difficile solo. Donc aussi là, j'ai beaucoup de respect pour les solo navigateurs comme ça.
Puis, dis-moi, ton bateau, est-ce qu'il y avait une grande superficie? Est-ce que vous pouviez, par exemple, aviez-vous comme une pièce séparée ou un endroit où vous pouviez vous mettre à l'abri?
Oui, donc le bateau, c'est environ 9 mètres de longueur. Et donc, il y a une petite pièce où on est dans l'abri. Et aussi, il y a aussi un endroit pour dormir, mais c'est petit. Et aussi, la chose, c'est que ce n'est pas vraiment confortable d'être dedans quand les conditions sont, on dirait, fortes. C'est un peu... parce qu'on n'a pas vraiment... on ne voit pas l'horizon. Donc, c'est très confusant pour les sens d'être de ne pas pouvoir comment dire ça, je sais pas,
c'est comme des repères sensoriels un peu du corps, c'est ça, dans l'espace. Il y a beaucoup de gens qui sont malades, par exemple, c'est à cause de ça un peu, ou...
oui c'est plutôt ça aussi, c'est mal de mer, mais c'est aussi que quand une grande vague frappe la côté du bateau, c'est vraiment, en fait, c'est une expérience très discordante, on pourrait dire. Donc,
Malgré les situations qui étaient plus comme difficiles ou qui t'ont demandé plus de jus, comme on dit, c'est quoi que ça t'a amené, tout ça? T'sais, tout à l'heure, on parlait de la philosophie là, derrière les voyages. Et toi, est-ce que toi, tu as ça t'a révélé quelque chose sur la vie, sur toi?
Oui, tu me demandes si j'ai des réflexions moi-même ou...
Oui, c'est quoi que ça t'a amené, cette aventure-là, sur de ton petit côté philosophique derrière tout ça, c'est quoi?
Ah oui, je pense que ça aide beaucoup de lire de livres romantiques sur le sujet, parce que comme ça, je pense que si on a lu, par exemple, La Longue Route, c'est difficile de ne pas être un peu tiré par l'océan et par la mer. Donc, mais je pense que pour moi, ça a toujours été que quand je regarde la mer, je sens vraiment et je sais que c'est bête, mais je pense que je sens qu'il y a quelque chose là qui on pourrait aller trouver. Je sais pas si ça fait sens, mais je trouve que ça sent presque comme s'il y a une grande vérité de trouver loin de la civilisation, loin de la société. Donc, j'ai pas trouvé cette grande vérité, mais je pense que au fond de moi, je pense que c'est toujours, je crois qu'il y a peut-être une grande vérité à trouver. En étant seul et en étant, ou presque seul peut-être, mais en étant petite dans une grande mer. Mais je pense aussi que pour moi, ce que j'ai trouvé, c'est d'être près de la nature, et aussi au Danemark, la plupart des natures, c'est vraiment la mer, parce que la terre, ça a été apprivoisée par des fermiers. Donc, je pense que la grande nature au Danemark, c'est la mer. Et je pense que de se trouver là, ça fait quelque chose pour son âme et pour des biens, de peut-être juste ne pas être un étudiant ou être un travailleur, ou même juste être soi-même.
On n'a pas souvent l'occasion de juste être...
Oui,
c'est vraiment beau. En tout cas, j'ai trouvé ça, je trouve ça vraiment intéressant, ton aventure. Puis, je suis vraiment contente que tu aies accepté de venir partager ça avec nous.
Ben, volontiers. Aussi, je pense que peut-être c'est un peu morbide, mais je pense aussi que nous, maintenant, nous sommes aussi allongés du fait qu'un jour, on va mourir. C'est presque comme une mauvaise rêve ou comme un cauchemar pour beaucoup de gens, je trouve, le fait qu'on va mourir. Et moi aussi, j'aimerais pas mourir, mais je pense que c'est aussi bon, au moins pour moi, d'être dans les situations comme avec la tempête près de Helsingør, parce que ça me souvient, ou ça me... Comment dit dans ça?
Ça me rappelle.
Ça me rappelle, oui, le fait que en fait je suis vivant et que je pourrais mourir.
Oui, tu as tellement raison, mais c'est totalement ça. C'est vrai, la peur de la mort, elle est exacerbée en ce moment à cause, entre autres, de la pandémie mondiale. Puis les gens, on est dans le confort beaucoup, pas dans tous les pays, mais il y a beaucoup de pays qui vivent dans un grand confort où on est plus ou moins conscient parfois du fait que la vie, ça tient à un film. On peut mourir demain ou tantôt. Donc,
oui.
Puis que ça fait partie également de la vie. Donc, je trouve ça vraiment intéressant, qu'est-ce que tu dis, ce lien-là, d'ouvrir sa perception de cette façon-là. on est après tout des animaux. On fait partie
bien sûr.
De l'écosystème.
Oui.
Et merci beaucoup. Vraiment, j'ai trouvé ça très intéressant. Puis je te souhaite une bonne continuité dans tes projets autour de la voile et des voyages et tout ça.
Ben merci.